Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 3 juillet, bien sûr la campagne pour le deuxième tour des élections législatives. On connaît désormais tous les candidats et il y a peu de surprises. Dans cette édition, nous parlons également des îlots de chaleur. Lyon accueille aujourd'hui un workshop international sur la thématique du digital au service de la résilience des villes dans leur lutte contre le réchauffement urbain. Explication dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les candidats pour le deuxième tour des législatives sont donc connus. Les dépôts de candidature devaient être effectifs hier soir à 18h. Pas de réelle surprise, sauf peut-être dans la 8e circonscription. Le deuxième tour était annoncé en quadrangulaire avec 4 candidats. Il y avait bien 4 candidats au moment du dépôt des candidatures. Mais dans la soirée, vers 19h30, le candidat du camp présidentiel, Dominique Desprats, a annoncé qu'il se retirait de la course. Le candidat ne va pas fournir ses bulletins de vote, empêchant donc mécaniquement les électeurs de voter pour lui. Jonathan Géry du Rassemblement National est arrivé en tête dans cette circonscription à 33,4%. Anne Rimbaud du Nouveau Front Populaire, deuxième à 22,7%. La sortante Nathalie Serre, LR, arrivée troisième au premier tour, se maintient dans cette configuration à 3. Le RN est plutôt favori. Manuel Bompard dans la métropole de Lyon ce mercredi pour soutenir les candidats du Nouveau Front Populaire. Bompard, réélu dès le premier tour dans les Bouches-du-Rhône, sera à Vaux-en-Velin de 14h à 15h. Place Guy Môquet en plein cœur du Mas du Taureau, aux côtés d'Abdelkader Lamar, candidat LFI investi par le NFP dans la 7e circonscription du Rhône. Abdelkader Lamar est arrivé largement en tête au premier tour avec 46% des voix, devant Alexandre Vincendet, 27% Horizon, et Cédric Pignal, RN, 21,3%. Le second tour verra une triangulaire dans cette circo de l'Est lyonnais. Bompard ira ensuite au Buère à Villeurbanne pour soutenir le député sortant de la 6e circonscription. Gabriel Lamar est arrivé très largement en tête, à 46,3% au premier tour. Il affrontera le dissident PS Jean-Paul Brett, 19,9%. L'ancien maire a refusé de se désister.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
L'Assemblée Générale du Comité pour la Transalpine se tenait hier à Lyon. C'est l'association qui œuvre pour la réalisation de la liaison ferroviaire à haute capacité entre Lyon et Turin. Il a été question du dossier de demande de subvention européenne, déposé sur le fil il y a 6 mois par la France. Bruxelles doit se prononcer mi-juillet sur un cofinancement. 90 millions d'euros sur les 220 millions au total que représente le programme d'études APD jusqu'en 2028. Les 130 millions restants seront répartis entre l'État, 80 millions, et des collectivités locales. 6 allers-retours quotidiens sur la ligne Lyon-Paris Trenitalia au lieu de 5 actuellement. Cela concerne la période allant du 15 juillet au 11 août, soit la période autour des JO. La compagnie transalpine indique que tous les billets sont échangeables sans limite et gratuitement sous réserve d'ajustement tarifaire. Jusqu'au départ du train, moyennant une retenue de 20%, il reste possible de les annuler et d'être remboursé.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
La Part-Dieu est réputée pour ses dalles en béton. Construit dans les années 70, le quartier est considéré comme le principal îlot de chaleur à Lyon. Des dalles en béton, des tours, des avenues très larges, peu de végétation et donc peu d'ombre. Mais ça, c'était avant. Le minéral va céder sa place au végétal. La ville et la métropole ont réuni plusieurs acteurs pour faire de la Part-Dieu un quartier vivable, même si demain, la température avoisine les 50 degrés. L'agence des paysagistes Jacqueline Osti et associés, les agences Ingérop, les éclaireurs et Très-Clair se sont vus confier le dossier. Le quartier d'affaires s'étend sur 177 hectares. L'objectif est de rendre ce territoire plus perméable, plus ombragé et plus apaisé. Concrètement, il s'agit de planter 2000 nouveaux arbres, doubler la surface des sols perméables, créer une canopée de près de 10 000 m². Ingérop organise un workshop international sur la thématique du digital au service de la résilience des villes dans leur lutte contre le réchauffement urbain. Un symposium qui se tient ce mercredi à Lyon à la Brasserie de l'Ouest. Des conférenciers inspirants venus du monde entier sont attendus pour évoquer cette question. Il faut rappeler que 50% de la population mondiale vit actuellement dans les grands centres urbains, mais cette proportion va passer à 70% en 2050. On comprend l'intérêt autour de cette question de la chaleur ressentie dans nos villes. Pour en parler, nos invités, François Lacroix, directeur scientifique et technique et membre du comité de direction d'Ingérop, et Lucille Alonso, chef de projet Service climatique, résilience et innovation chez Actiera, la filiale d'Ingérop récemment créée et dédiée au développement durable. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement le réchauffement urbain? Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cette problématique?
Alors, on parle plutôt de réchauffement climatique qui vient aggraver tout ce qui va être climat urbain et donc potentiellement créer des conditions encore plus difficiles à survivre en milieu urbain, notamment dans des conditions de changement climatique.
Comment ça se matérialise exactement?
Alors, on connaît le phénomène d'îlot de chaleur urbain, donc c'est un phénomène, on va dire, de différence de température entre le milieu urbain et le milieu rural environnant. Le nouveau mot un peu à la mode, c'est le mot de surchauffe urbaine. Et puis après, on va retrouver, on va dire, des gradients thermiques au sein de la ville, donc avec des espaces plus ou moins chauds, et qui potentiellement peuvent être un peu plus prononcés, notamment la nuit, où on va avoir des espaces qui vont moins se refroidir qu'en périphérie, dans des espaces un peu plus ruraux.
Quelles sont les conséquences sur l'homme ?
Ça peut avoir des conséquences notamment sanitaires, des mortalités plus prononcées lors de ces journées caniculaires, et puis après on va avoir des phénomènes, on va dire, plutôt d'inconfort, et là on va parler d'inconfort thermique, avec un ressenti qui ne va pas être, on va dire, acceptable, notamment dans des périodes de forte chaleur.
Nos villes n'ont pas été construites, n'ont pas été bâties pour justement pour faire face à cette situation qui est assez récente, hein. On connaît ça depuis quand ? Depuis le début des années 2000 peut-être, un petit peu avant ?
C'est un phénomène qui a toujours été présent, hein. À partir du moment où on a construit des villes, on retrouve ce phénomène, on va dire, de surchauffe urbaine. Après, c'est vrai qu'il est de plus en plus prononcé, notamment avec le changement climatique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nos villes doivent s'adapter, notamment par ces conditions du coup changeantes, et également accepter, on va dire, d'avoir un peu plus de végétal dans ces espaces urbains qui, à la base, étaient quand même très minéral.
Je me permets de vous donner un exemple typiquement sur le territoire de la ville de Lyon d'adaptation, puisque depuis 2022, et à la demande de la société publique locale Lyon-Part-Dieu, une nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre a été désignée pour transformer et refondre les espaces publics du quartier, donc Lyon-Part-Dieu, et précisément nous adapter, entre autres, à la problématique de surchauffe urbaine. Cette équipe de maîtrise d'œuvre, elle est pilotée par Jacqueline Osti, qui est Grand Prix de l'urbanisme, et puis donc nous en faisons partie, nous, Ingérop, avec d'autres partenaires, éclaireurs, etc. Au-delà des îlots de chaleur urbains, ce que nous faisons sur ce quartier ensemble traite de nouveaux paysages, de biodiversité, de mode actif et peut-être d'abord de sobriété. Mais certainement de surchauffe urbaine, c'est 70 000 m² de surface qui vont être perméabilisés, 10 000 m² de canopée, 2 400 arbres plantés. Donc c'est un projet majeur sur la ville de Lyon, donc, et que nous conduisons. Quand Lucille parlait d'adaptation par rapport à l'inconfort, par rapport à l'aggravation des risques sanitaires, c'est aussi une adaptation de nos entreprises d'ingénierie. Ingérop, sa filiale Actira, bien sûr, la start-up City Climatics, compte tenu du sujet d'aujourd'hui, une adaptation de tout notre métier et du sens que nous y donnons.
Alors, un quartier comme la Part-Dieu, donc, qui est effectivement très, très minéral, et on comprend bien pourquoi il y a cet îlot de chaleur à cet endroit. Comment on le traite à partir du moment où on intervient justement bien après la construction de ce quartier, hein, qui date des années 70 comment on fait pour l'adapter aujourd'hui en 2024?
Eh bien, on repense complètement l'espace public, en fait, et on le transforme. Hein, on va reperméabiliser des surfaces qui n'avaient pas été conçues pour être perméables. Elles sont imperméables, ça c'est pour la problématique de l'eau. Et puis 2 400 arbres sur le quartier, ça va transformer le quartier, quoi. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans repenser complètement l'aménagement et l'urbanisme d'une certaine manière, d'où des gens comme emblématiques, hein, comme Jacqueline Osti qui pense ça, et puis des ingénieries capables de l'accompagner. Ça va avoir évidemment des impacts sur les circulations, la mise en place de modes actifs, l'apaisement du quartier en quelque sorte.
Et le côté végétal, hein, c'est ces forêts urbaines par exemple qu'on voit aujourd'hui fleurir,
oui,
dans les villes.
Oui, forêts urbaines, comme on le fait d'ailleurs aussi, j'ai un autre exemple, mais cette fois-ci à Nice, forêt urbaine du Paillon, hein, c'est 20 hectares finalement de nouveaux parcs, mais c'est plus qu'un parc, c'est véritablement une forêt en cœur de ville, quoi, avec toute une réflexion autour de la renaturation, mêlant bâtiments, eau, espace public. C'est vraiment une reconception en profondeur de nos villes, quoi.
Alors, en fait, l'enjeu est surtout d'éviter tout ce qu'on appelle rayonnement direct et rayonnement diffus, et donc de trouver des moyens d'améliorer le confort thermique en jouant sur ces deux paramètres, à la fois sur la perméabilisation du sol et sur la végétalisation. Mais ça peut être aussi d'autres solutions qui peuvent être amenées quand potentiellement on est dans des espaces patrimoniaux qu'on n'a pas forcément la possibilité d'apporter de la végétation parce que très encadré. Et donc dans ce cas-là, on peut arriver par un diagnostic à la base à trouver des solutions qui amélioreront ces conditions quand même.
Oui, parce qu'il y a des quartiers qui sont un petit peu sanctuarisés, hein, comme par exemple le Vieux Lyon, où dès qu'on touche quelque chose, il faut avoir l'accord des Bâtiments de France, avoir l'accord de plein de structures. C'est un quartier UNESCO en plus. Comment on fait justement dans ces quartiers-là ?
Le cas du Vieux Lyon est un espace qui est quand même relativement très frais parce que justement, en fait, on a des rues qui sont très étroites, avec peu de rayonnement direct, et donc l'espace urbain n'emmagasine pas de la chaleur sur cet espace-là, malgré qu'il soit très minéral. Par contre, effectivement, sur des espaces typiques, on va dire, protégés UNESCO, patrimoniaux, etc., là où il n'est pas possible de planter de la végétalisation, on peut apporter des solutions grises, avec notamment, par exemple, alors j'ai l'exemple en tête de Brive-la-Gaillarde, où ils ont apporté des sortes de parapluies multicolores sur des rues protégées, où ça permet en fait justement de bloquer ce rayonnement direct, notamment l'été.
Est-ce que Lyon est à la pointe de cette recherche ?
Alors Lyon, en tout cas, essaye pas mal de choses, et pour travailler avec eux assez souvent, ils essayent déjà de comprendre quel est l'effet concrètement de la végétalisation, quelle est l'importance de la densité de la végétalisation et de l'apport de toutes les strates basses, moyennes, hautes, et aussi de solutions un peu nouvelles, hein, comme l'arbre de pluie. On travaille beaucoup avec eux sur ces sujets-là pour savoir concrètement à partir de quand on va avoir un effet bénéfique sur le confort thermique en apportant ce type de solution. Donc je dirais qu'ils sont assez tournés R&D et également assez alertes sur ces questions de problématiques de confort thermique.
Arbre de pluie, vous avez prononcé le mot là. C'est quoi un arbre de pluie ? Expliquez-nous, parce qu'on voit souvent des panneaux effectivement à Lyon qui indiquent cette mention. C'est quoi exactement un arbre de pluie ?
Un arbre de pluie, c'est le fait de rediriger directement les eaux pluviales vers le pied d'arbre, et donc de faire en sorte de créer à la fois une pente qui permette de rediriger directement ces eaux de pluie assez rapidement vers le pied d'arbre, et puis également de redonner pas mal d'espace au pied de l'arbre pour faire en sorte en fait qu'il grandisse plus rapidement et qu'il potentiellement évapore plus qu'un arbre en bac classique dans un espace urbain.
Quelles sont les villes qui font référence en la matière, en Europe par exemple ?
Alors Lyon s'inspire beaucoup de ce que fait Barcelone. La métropole de Grenoble est très engagée, oui. Et notamment est en cours de réalisation d'un outil innovant sur ces questions de diagnostic du confort thermique. Mmh. Et puis après, on a aussi la ville de Marseille qui essaye en tout cas de comprendre son territoire et qui est assez dynamique sur l'espace français sur ces questions-là.
Les innovations, elles arrivent très vite dans ce domaine-là. Comment, qu'est-ce qu'on peut voir arriver dans nos villes dans les prochaines années, dans les prochains mois ?
Alors, je ne sais pas si les innovations arrivent très vite. En tout cas, on essaye beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très pertinentes parfois. On va souvent avoir de nouvelles solutions, mais qui, d'un point de vue, on va dire, rapport qualité-prix ou efficacité, prix de mise en œuvre de la solution, peut ne pas forcément être très pertinente. Je pense par exemple au bac de végétation qu'on a pu retrouver sur certains espaces et qui en fait ne tiennent pas longtemps dans le temps parce que les conditions ne sont pas réunies pour faire en sorte de produire une végétation dense et bénéfique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont essayées et après il y en a peu qui sont retenues, mais en tout cas celles qui sont retenues parce qu'on fait un suivi dans le temps, on regarde effectivement des indicateurs pertinent sur l'apport de ces solutions sur l'amélioration du confort thermique, et on essaye toujours d'améliorer les outils de diagnostic pour avoir des outils les plus performants et les plus justes possibles sur ces modélisations du climat urbain.
On a eu des tests à Lyon notamment de peinture claire ou de revêtement clair en tout cas sur les trottoirs. Ça c'est efficace ?
Alors, c'est efficace pour la température de surface, mais pas pour le confort thermique. Donc vraiment, en fait, ce qu'on appelle le confort thermique, c'est le ressenti de la chaleur d'un citadin à 2 mètres, à une altitude où il vit. Et la peinture blanche va avoir un effet, on va dire, rafraîchissant uniquement sur la température surface, la température du matériau. Par contre, cette chaleur qui n'est pas emmagasinée par le matériau va être rejetée. Et en général, dans un espace urbain, vu qu'on est sur des espaces qui sont assez denses, bah, cette chaleur va être concentrée sur les deux premiers mètres à la suite de la surface, et donc va avoir un effet moins bénéfique sur le confort thermique et le ressenti du citadin.
Par rapport à votre question, c'est bien pour ça que on a pensé qu'il était utile d'organiser des événements, parce que compte tenu de l'urgence, compte tenu du défi qu'on a à résoudre, il est certain qu'on a besoin de la recherche et des connaissances nouvelles et les mettre le plus vite possible en application dans les projets que nous développons. Mais à l'inverse, la recherche, elle a aussi besoin de se nourrir des problématiques, des initiatives, des innovations, des acteurs de terrain, que ce soit les entreprises, nos clients, les projets, ceux qui portent l'action publique, etc. Et donc, on pense qu'un groupe d'ingénierie comme Ingérop est précisément le bon médiateur entre science et action, si vous voulez, et fournit l'occasion de confronter nos solutions appliquées et ce que l'état des connaissances, c'est ce que la communauté scientifique a à nous dire. Parce que effectivement, sinon, d'abord, c'est une question de partager la connaissance et l'innovation, mais c'est aussi la faculté de pouvoir critiquer, évaluer, comparer, benchmarker des solutions qui peuvent être un moment vues comme étant très, très prometteuses et en fait soit moins efficaces qu'on ne le pensait, soit inapplicables concrètement dans les projets qu'on développe, quoi.
Quand on dit inapplicable, ça peut être quoi, par exemple, pour le cas particulier de Lyon, qu'est-ce qu'on peut pas faire ?
Oui, ça peut être très coûteuse ou qui génère des effets encore plus terribles sur le climat. Ne pas oublier que nous adapter, c'est une nécessité, mais encore faut-il aussi atténuer les causes du changement climatique, enfin, tout faire pour. Si le prix à payer pour mettre en œuvre une solution, c'est de mobiliser des matériaux, des techniques constructives qui sont très impactantes sur le climat ou tel autre compartiment du développement durable, la biodiversité, etc., alors il faut savoir ce qu'on fait et peut-être justement ne pas les retenir pour cette raison-là. L'impossibilité ou le mur ou la difficulté économique ou financière d'un côté, mais aussi bien raisonner l'ensemble des transitions qui sont à l'œuvre actuellement, qu'elles soient écologiques, climatiques, énergétiques, dans leur globalité. C'est un peu pour cette raison-là que nous, chez Ingérop, on a créé cette filiale Actiera qui est généraliste 360 degrés, si vous voulez, sur toutes les questions de développement durable, pour que les problèmes soient abordés dans leur complexité et pas dans leur apparente simplicité.
D'où l'intérêt, effectivement, de ces témoignages inspirants, donc, lors de ce symposium oui, ce mercredi.
Exactement. Et on pense vraiment que l'ingénierie est le bon médiateur pour ça, quoi. Et on pense même que c'est de notre responsabilité d'organiser de tels événements ou de faciliter l'organisation de tels événements.
Merci à tous les deux. Je rappelle que ce symposium se tient ce mercredi. C'est à la Brasserie à l'Ouest. Un mot de sport pour terminer. L'Olympique Lyonnais féminin va accueillir la meilleure joueuse du championnat de France 2023-2024, Tabitha Chawinga. L'attaquante internationale malawite est désormais liée au club jusqu'au 30 juin 2027 avec un total impressionnant de 19 réalisations en 21 matchs de D1. Tabitha Chawinga se hisse à la première place du tableau des meilleures buteuses du championnat français. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition.